France Inter.
Je m'appelle Falesse et j'ai 17 ans. La phobie scolaire, bah, comme beaucoup de monde, ça s'est matérialisé par énormément de crises d'angoisse. Un ennui en cours qui se transforme petit à petit en peur. Puis on commence à s'isoler. Moi, ce que j'aimais bien faire, le aimer est relatif, c'était m'enfermer dans les toilettes pendant 8 heures.
Interclasse. Éric Valmire sur France Inter.
Il y a 30 ans, celle ou celui qui ne voulait pas s'informer, c'était facile. Il suffisait de ne pas ouvrir un journal, de ne pas regarder les 13 et 20 heures à la télé ou de bouder la radio à l'heure des infos. Aujourd'hui, celle ou celui qui ne veut pas s'informer pourra toujours le prétendre avec ce truc-là. Consulter en moyenne 247 fois par jour, si, faites le calcul, c'est impossible. Le système de notification, véritable flux permanent qui s'abat sur nos téléphones et qui génère d'ailleurs la fameuse fatigue informationnelle, ne peut être subi avec passivité. Ne pas savoir différencier le vrai du faux, le virtuel du réel, se révèle véritable handicap dans le développement personnel du jeune individu adolescent, l'élève, surtout à l'âge du parcours initiatique. Interclasse, ce sont donc des journalistes, des productrices, producteurs, attachés de production, techniciens de reportage, et cette année des étudiants en journalisme qui ont investi tout au long de l'année des salles de classe, de collège et lycée, aux côtés des enseignantes et enseignants dont le rôle est déterminant. Non pas pour ajouter un cours dans le programme scolaire, mais pour accompagner les jeunes dans les quartiers prioritaires et en grande ruralité, en les rendant protagonistes de l'information. Que veulent-ils exprimer et comment le faire? C'est tout l'enjeu. C'est ce résultat qui est donc présenté ici, tout l'été, sur France Inter. Et l'une des premières interrogations qui est revenue souvent chez les élèves, c'est l'utilité de l'école dans l'apprentissage de la vie. Sa définition, son sens, ses objectifs, un peu perdu de vue par ces jeunes à tel point qu'en passant le portail du collège, ils ont parfois l'impression de devenir quelqu'un d'autre. À Villefranche-sur-Saône, par exemple, les collégiennes d'Urata, Monique et Yasmine, se sont emparées du sujet.
Au collège Jean Moulin, nous avons interrogé 288 élèves. Résultat, 45% d'entre eux se sentent différents quand ils franchissent le portail de l'établissement. Certains ont même l'impression d'avoir deux personnalités distinctes, une pour le collège et l'autre pour la maison. Un sentiment propre à chacun qui peut s'expliquer par différentes raisons. Une situation familiale compliquée, des difficultés scolaires ou encore la peur du regard des autres. Selon Céline Guény, psychologue au collège Jean Moulin, cette différence de comportement est tout à fait normale.
On joue tous à plus ou moins aussi un rôle aussi pour se protéger déjà dans un premier temps. Et puis c'est pour ça qu'on a une identité scolaire, on a une identité dans sa famille, on a une identité dans son travail aussi. Nous en tant qu'adultes, on n'a pas forcément le même comportement au travail que quand on est dans sa famille. En fait, quand on change de milieu, c'est constamment un ajustement. C'est-à-dire, il faut rester soi-même, parce qu'effectivement, on peut être en souffrance. Donc, il ne faut pas se perdre de vue soi, on est d'accord, tout en s'adaptant un minimum aux autres. Donc, c'est un ajustement entre soi et les autres. Ce n'est pas une double personnalité.
Toujours selon nos chiffres, 48% des élèves se sentent mieux à la maison qu'au collège. À l'inverse, pour Omar, 15 ans, le collège est l'endroit où il est le plus à l'aise.
Au collège, je suis un peu plus actif qu'à la maison. Je suis dans ma chambre. Au collège, j'ai des amis avec qui je suis très proche. Alors qu'à la maison, bah, je suis livré à moi-même. J'ai personne à mes côtés. Malgré que j'ai les devoirs, tout ça, je suis tout seul.
Au final, ce n'est qu'une question d'adaptation à son environnement et non pas une double personnalité ni une maladie. C'est comme une technique de caméléon pour s'adapter aux codes et aux normes de la société. C'est une préparation à la vie future.
D'Urata, Monique et Yasmine, avec le soutien de Marion Durand du CFJ Lyon. Mais si ce reportage rassure les élèves sur le fait qu'ils n'ont pas une double personnalité, la question de l'utilité de l'école reste en suspens. Conversation à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
On se trouve au lycée Voilhomme. Nous sommes 7 élèves de seconde 13. Dinozan, Nassim, Iliès, Charlie, Edmilson, Aboushia et Zinedine. On est accompagné aujourd'hui de Jean-Charles Pétier, professeur de philosophie.
Bonjour.
et de Jean-Pierre Véran, formateur.
Bonjour.
Vous êtes ici car on s'intéresse à l'école et plus particulièrement à cette question, à quoi sert-elle ?
C'est très bien que vous vous interrogiez. Parce que si vous ne vous interrogiez pas là-dessus, ça voudrait dire que vous êtes bête. Que vous allez à un endroit tous les jours pendant des années et des années sans jamais vous demander, mais finalement, à quoi ça sert ?
Quand vous avez une note, quand vous dites j'ai 15 de moyenne, qu'est-ce que ça nous dit sur ce que vous avez appris à l'école ? Sur ce que vous savez faire et ce que vous savez pas faire ? Ça nous dit rien du tout. Donc si vous voulez, c'est normal que vous posiez les questions, parce que notre système... Vraiment, il nous renseigne assez peu sur ce que vous savez faire, ce que vous y apprenez. Elle vous classe, elle vous donne une note. Elle vous dit vous êtes bon pour passer dans la classe supérieure, vous êtes bon pour avoir l'examen, parce que vous avez la moyenne à l'examen. Mais cette moyenne, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit rien, sinon que vous avez la moyenne.
Être en constante évaluation peut faire qu'on se concentre uniquement sur les résultats et non sur l'apprentissage. L'évaluation peut être stressant aussi.
Souvent, la veille d'une évaluation, ou même l'avant-veille, on va passer beaucoup de temps à réviser. Ça va même nous dégoûter de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va tellement viser une bonne note, voir l'excellence pour faire plaisir soit à nous-mêmes, soit aux profs, soit à nos parents, qu'on va forcer.
Malheureusement, aujourd'hui, on est au lycée, et c'est comme ça depuis le collège, ou même la primaire pour certains, où les notes, ça détermine vraiment qui tu es.
On entend bien le poids de l'évaluation, c'est-à-dire cette inquiétude par rapport au fait que l'évaluation a beaucoup d'importance, et donc on fait jouer, et on est dans un pays dans lequel la réussite scolaire a beaucoup d'importance, plus que d'autres pays, ça c'est vrai. Et peut-être qu'on ne met pas en évidence non plus le fait que des gens ont pu finalement se réaliser après, plus tard. Et peut-être que l'école, elle doit aussi nous aider à réfléchir à ça, qu'est-ce qui pour nous vaut.
Est-ce que les cours théoriques suffisent pour entrer dans la vie d'adulte ? Ou est-ce qu'il faudrait d'autres cours pour apprendre les choses du quotidien ? On a posé cette question à une professeure du lycée Wallôme.
Je me suis toujours dit que ce serait bien qu'on ait des cours un peu plus pratiques, de couture, de cuisine par exemple. C'est en faisant qu'on apprend. Il faudrait faire plus à l'école, je pense. Plus de pratiques, plus de TP, plus d'expérience.
Que pensez-vous de la réponse de la professeure ?
On a tort d'opposer les choses. C'est pas si simple que ça. Quelqu'un qui fait de la cuisine, c'est... merveilleux d'intelligence. Mais si vous vous intéressez un petit peu à des choses qu'on appelle plus pratiques, comme je sais pas trop quoi, la menuiserie, la maçonnerie, c'est extrêmement intelligent de savoir faire ça. Donc, elle forme notre esprit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a plus de jours d'école? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait supprimer dans notre école? Mais quoi? Parce que quand on dit des choses du quotidien, bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière votre question, en fait ?
Il faudrait plus de TP et de pratique. Ça peut paraître tout bête, mais comprendre des factures, faire des demandes administratives, tout ça, on va galérer à l'apprendre par nous-mêmes. Alors que l'école, je pense que ce serait l'endroit idéal pour l'apprendre. Je sais qu'en voie professionnelle, il y a des cours de PSE, prévention, santé, environnement. Ça apprend plein de choses sur la vie de tous les jours. Il y a aussi des cours, des diplômes de sauveteur. Ce qu'on n'a pas du tout en voie générale, ce qui est vraiment dommage.
Est-ce qu'une chose n'est valable que si elle est utile, et on dirait presque tout de suite utile ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, je trouve qu'il y a des choses qui nous servent dans l'immédiat, vraiment pas dans la vie de tous les jours. Mmh. Et en discutant avec des gens qui travaillent, eux-mêmes vont me dire que la majorité de ce qu'ils ont appris à l'école, ça leur a pas servi à grand-chose.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire par rapport à un truc scolaire, en fait, j'ai bien aimé faire ça ?
Oui, il y a des trucs qui me plaisent, que j'ai aimé faire en cours, même si il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, ou c'était limite bien.
C'était limite bien, ok.
Des fois, je m'intéresse à des choses alors que je sais très bien que ça va pas m'aider dans la vie de tous les jours, mais je m'y intéresse quand même parce que ça m'apporte.
Ça m'apporte, et c'est pas utile au quotidien, d'accord ?
Par exemple, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les arts, il a pris tous les cours d'art plastique et il s'est dit quand même moi j'aime beaucoup ça et grâce à ça il a pu se donner une carrière dans l'art plastique.
Justement la richesse de l'apport de l'école, c'est justement d'offrir des occasions de rencontres qui n'auraient pas lieu si l'école n'était pas là. Et donc effectivement mettre au contact des jeunes avec la musique, les œuvres d'art, etc. C'est une mission fondamentale de l'école. Si elle ne faisait pas ça, ben, elle servirait beaucoup moins.
Est-ce que l'école sert aussi à faire des rencontres, à apprendre à vivre avec d'autres personnes que sa famille ?
L'école, telle qu'elle est pensée dans l'idéal, c'est un lieu dans lequel on va aussi apprendre non seulement à sortir de sa famille, mais à rencontrer aussi des gens qui sont, en principe, d'autres milieux sociaux. C'est quoi le projet de l'école? Qu'est-ce qu'on cherche à faire à l'école? Et donc, du coup, on revient à la question du départ. À quoi sert l'école? Peut-être qu'elle sert aux individus, à l'épanouissement, etc. Mais peut-être qu'elle sert aussi à pouvoir exister.
Heureusement que l'école est là pour renforcer des liens sociaux. Parce que mes meilleures amitiés, je les ai faites à l'école.
Une conversation suivie par Solène Leroux. La suite d'Interclasse après Janelle, Monae, Champagne, Shit. Champagne shit. Everybody turn around taking them pics, cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips, cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip, hips. Back your ass up. And do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit. About work, cause I'm on my champagne shit. I'm talking high heels and no shirt, cause I'm on my champagne shit. I used to pray about taking vacations, remember them bills we split. Now I'm here with Bueno and we busting bottles like we won a championship. Yeah, I like all my kisses French when I'm on my champagne shit. Everybody turn around taking them pics, cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips, cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip, tips. Back that ass up. And do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit. Champagne Shit, Janelle Monae sur France Inter. Interclasse penchée sur le sujet ô combien sensible de l'utilité de l'école dans l'apprentissage de la vie et dans ces âges où la personnalité se construit, assumer très vite ce que l'on est dans le collectif du collège n'est pas si simple. À Villefranche-sur-Saône, Anaëlle et Mina n'éludent pas la question.
Comment se détacher du regard des autres? Au collège, il peut être difficile d'être soi-même. Élise, élève de 3e, nous raconte son expérience.
Le regard des autres m'impacte beaucoup, même dans ma manière d'être. Je suis tout le temps à demander l'avis des autres, si je fais bien ou si c'est juste ce que je fais. Ceux qui me connaissent pas trop, je pense qu'ils me voient plutôt comme une personne très énergique, très sociable. Mais par contre, ceux qui me connaissent vraiment savent que... En public, je suis extravertie, mais en vrai, au fond de moi, je pense que je suis plus introvertie, je parle pas trop. Je préfère rester toute seule et faire mes activités toute seule.
Lorsqu'ils grandissent, les ados ont souvent besoin de la validation des autres par peur d'être rejetés. Pauline Barbet, conseillère principale d'éducation au collège Jean Moulin, nous explique comment fonctionne un groupe d'ados.
L'adolescence est une période qui n'est pas simple. C'est la période où on n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. On va se chercher, on va chercher qui on est. Pour grandir, il y a le regard des autres et les autres. Chez les adolescents, c'est les copains, les copines, c'est le groupe de pairs. Et c'est pour ça aussi que les adolescents ont l'habitude d'être ensemble via des groupes pour partager, pour se donner confiance aussi et pour bien grandir.
Du jugement indirect aux moqueries, le regard des autres peut prendre plusieurs formes.
Si un adolescent n'appartient pas à un groupe, c'est peut-être parce que les autres jugent qu'il est différent et l'apprentissage de la différence, cet élève va peut-être se sentir mis à l'écart, isolé, et ça peut être difficile à vivre quand on est adolescent, de ne pas faire partie d'un groupe, de ne pas être accepté dans ce groupe.
En France, un élève sur 10 est victime de harcèlement.
On appelle harcèlement, ce sont des moqueries, des brimades qui sont opérée de manière répétée par un ou plusieurs élèves. Si on fait la carte d'identité de l'élève qui est harcelé, ce sont des élèves qui sont différents par rapport au reste du groupe, ou en tout cas que les autres jugent différents.
Alors, comme Élise, certains ados gardent en tête que le collège ne dure pas pour toujours et qu'il est important de s'affranchir, parfois, du regard des autres.
Je me dis de plus en plus que bah, j'ai qu'une seule vie et que je peux pas la passer à me dire que je pourrais plaire à tout le monde, parce que c'est faux. Clairement, je pourrais pas plaire à tout le monde et je me dis vaut mieux me plaire à moi plutôt que plaire à la majorité.
Pour ceux qui n'ont pas la chance d'Élise, deux numéros existent pour dénoncer les situations de harcèlement. Le 30-18 et le 30-20.
Non au harcèlement. Appelez le 30-20.
Reportage avec le soutien de Tidjane Perron du CFJ Lyon. Ne pas faire attention au regard des autres, à ce regard qui déclasse, marginalise, c'est le défi des classes SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Quartier La Rabière, à jouer les tours.
Ça c'est nous dans la cour de notre collège, le collège La Rabière, à jouer les tours près des tours.
Je m'appelle Mélanie Soulas, je suis professeure des écoles spécialisées et professeure d'une classe de SECPA.
On sort, on porte lui, sa trousse, on met son menton pour se mettre par terre.
J'ai absolument pas choisi au début d'enseigner en SECPA. J'étais professeure en maternelle, avec peu d'expérience, peu de points, et au mouvement, on m'a dit que j'allais partir en SECPA l'année d'après. Donc j'ai eu très peur sur le moment, j'étais pas forcément très contente, et finalement, au bout de quelques mois, j'ai adoré, et ça fait 16 ans que je suis en SECPA et je ne suis jamais partie. J'ai aussi été professeure des écoles dans des classes qui fonctionnaient bien, mais je m'ennuyais profondément parce que j'ai l'impression de ne pas apporter beaucoup aux élèves, en fait. Ce qui me plaît, c'est aussi d'essayer de comprendre leurs difficultés, essayer d'imaginer comment les aider. Et donc, c'est ça que j'aime, en fait, me poser des questions sur comment aider les élèves. Après, j'ai l'impression aussi de les aider quand je vois qu'ils réussissent en allant en bac pro, en BTS pour certains, et qui sont heureux après dans leur vie d'adulte.
La SECPA, ça m'a aidé à reprendre confiance. Je suis dyslexique et du coup, le fait de pouvoir lire, en fait, parce que en troisième, SECPA, c'était souvent moi qu'on désignait pour lire devant tout le monde et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, et ça m'a appris qu'en fait, je pouvais lire très facilement. Et ça m'a apporté aussi du professionnalisme parce qu'on a des ateliers en quatrième et en troisième. Du coup, ça permet de découvrir plusieurs métiers et d'être vite formé, en fait, à un monde professionnel. Et ça apporte plein de valeurs, en fait, je pense.
On a aussi voulu rencontrer des parents pour savoir ce qu'ils pensaient de la SECPA.
La première fois que j'en ai entendu parler, c'est par le psychologue qui suivait mon fils depuis quelques temps, qui m'a suggéré qu'effectivement, cette classe particulière pourrait lui apporter beaucoup de choses. Moi, j'étais pas du tout inquiète, au contraire, j'avais envie.
Qu'est-ce que la SECPA a apporté à votre enfant ?
Une confiance en lui. Les enseignements étaient à son rythme et ça lui a permis d'avancer. Je dirais briller. J'ai pu effectivement constater les préjugés que d'autres pouvaient avoir. Et je pense que je me bagarre pour que effectivement ces préjugés n'existent pas, quoi.
L'adjectif, quand on parle d'eux, c'est souvent le même. Ils sont bêtes. Mais pourquoi on dit ça d'eux ? D'où ça vient ? Comment fait-on pour arrêter d'entendre « ils sont bêtes » ?
Être bête, c'est par rapport à quoi ? Vous pouvez expliquer ça ?
Au résultat ?
C'est un critère, mais souvent quand on dit « il est bête », c'est pas parce qu'on connaît ton bulletin. Hein. Mmh. Je veux dire,
La façon de se comporter.
C'est la façon de se comporter, en effet, ça peut être ça. La façon de parler aussi, la façon de réagir, rigoler à quoi. Et puis, c'est toujours aussi par rapport à une norme. Si la norme, c'était SECPA et que le général serait l'équivalent du SECPA, ce serait vous les plus forts. Hein. Vous comprenez un peu les choses ? C'est qu'en fait, vous avez une manière de fonctionner qui est différente. Vous avez une manière d'apprendre, une manière de fonctionner, une manière d'agir, une manière de réagir qui est différente par rapport à la plupart des élèves. Et si vous avez des difficultés scolaires sur le plan de la lecture, par exemple, de l'orthographe ou des mathématiques, vous avez peut-être d'autres richesses. Quand je dis richesses, c'est des richesses humaines. Peut-être que vous avez des choses que moi, je ne sais pas. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, la rencontre humaine, c'est de partager un savoir.
Moi, je veux juste vous dire que même si vous avez des difficultés aujourd'hui,
Oui, c'est vrai. Ok, ça ne veut pas dire que vous ne deviendrez rien plus tard. Et ce qui est dur, c'est de sortir de la case dans laquelle on vous met.
La classe SECPA de la Rabière a joué les tours avec Zara Douche, jeune diplômée de l'OPJT, l'école de journalisme à Tours. Sortir de la case dans laquelle on est, avoir des difficultés, oui, mais les surmonter, ce qu'on vient de voir ensemble avec la classe SECPA. En clair, faire d'un moins un plus.
Qu'est-ce que vous me cachez? C'est quoi cette histoire avec Fernand?
T'as pas honte d'être encore là?
Quand tu seras une belle jeune fille, tu apercevras dans le ciel des voiles écarlates.
L'exemple de Raphaël Thierry qui a fait d'un handicap un atout. Les lycéens de Désiré-Nisard, classe de première en grande ruralité en Bourgogne, département de la Côte d'Or, ont souhaité s'entretenir avec celui qui est devenu un acteur.
Il tient le rôle principal dans L'Envol, un film qui a été diffusé au Festival de Cannes en 2022 et qui est sorti en janvier 2023. Mais d'ailleurs, Agathe, tu t'es renseignée sur sa filmographie.
Puis on a vu qu'il avait joué dans Family Business, une série Netflix avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon.
J'étais figurant dans un court-métrage qui a été tourné dans mon village, qui s'appelle « Avant que les lumières ne s'éteignent ».
Je n'ai jamais fait de formation en art dramatique ou autre. J'ai conçu toujours mon parcours artistique comme le compagnonnage, si ça vous dit quelque chose. Le compagnonnage, c'est-à-dire apprendre à chaque fois au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on rentre dans un domaine artistique. Et je crois que c'est aussi par curiosité et par gourmandise que j'ai voulu à chaque fois aller dans d'autres domaines, dans d'autres courants artistiques. On a la chance de faire un métier, de vivre d'un métier qui nous passionne. Et ça, c'est quand même ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie, c'est-à-dire de ne pas avoir envie d'arrêter.
Là, actuellement, on passe à la radio et ça me fait vraiment flipper de me dire que beaucoup de personnes m'écoutent. Mais par contre, ce qui me rassure, c'est qu'on ne me voit pas, alors que pour vous, le cinéma, c'est principalement visuel. Comment vous réussissez à gérer le regard des gens?
Pour dire, quand on a un physique comme le mien, avec une tronche comme ça, j'ai la chance d'avoir des mains magnifiques, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ces mains-là qui sont pas toujours faciles à vivre, parce que quand on a des gros doigts, c'est vraiment chiant, surtout avec les téléphones. Déjà, mes potes m'avaient dit, avec la gueule que t'as, tu devrais faire du cinéma. Quand j'étais gamin, j'ai eu un problème à l'œil, et puis j'avais eu un œil qui était tellement opéré, tellement charcuté, qu'il était atrophié. Et je répète toujours, quand tu as une tronche comme ça avec un œil atrophié, tu pars pas gagnant dans la vie. C'est toujours source d'emmerde, de regard. On te regarde, tu te sens regardé, observé. C'est absolument insupportable. Et à une certaine époque, je me suis dit, plutôt que de me cacher sous la table, ben un jour je vais monter sur la table et puis je vais me faire voir différemment. Quand j'étais au collège à Châtillon, en cinquième, j'ai pris les devants, je suis devenu le pitre de la classe, le plus chiant du collège. Et puis, en faisant de la musique avec mes frères, tu montes sur scène. Et quand tu montes sur scène, t'es déjà un peu plus haut. Et puis, je crois qu'on te regarde, on pose un regard différent sur toi. Et je crois que c'est ça, moi, qui m'a aidé un petit peu à m'émanciper, tout en vivant des moments assez douloureux, parce que quand tu trimbales à droite à gauche, tu sens qu'on te regarde et... Mais une fois que tu sais que tu as enclenché quelque chose qui te permet de te libérer de ça, de prendre ton envol, en gros, tu vis les choses différemment. Mais je crois que le cinéma, comme le théâtre, comme la musique, comme la peinture, comme tout autre art, nous permet aussi des fois d'exhumer des choses qui sont en nous.
Alors, on a voulu vous rencontrer car vous êtes un comédien du coin, Sainte-Colombe-sur-Seine. C'est un petit village de moins de 1000 habitants qui est juste à côté d'ici. Et c'est vrai que ça nous paraît un peu fou que vous ayez monté ces marches du Festival de Cannes.
Je crois que dans le milieu du cinéma, qui est un milieu très parisien, très citadin, très jacobin même, je crois que je fais partie des ovnis. Les gens ont du mal à comprendre que je n'habite pas à Paris. Je crois que je ne pourrais pas me passer, moi, de la ruralité. Je suis né à Sainte-Colombe-sur-Seine, j'ai jamais vécu en ville, et j'ai besoin de cette ruralité. Chez moi, tous les jours, je vais marcher. Je suis dans des éléments qui me conviennent parfaitement et qui m'aident aussi, moi, à prendre mes textes, à réfléchir, à essayer d'écrire de nouvelles choses. Et quand on me file un rôle de boucher dans un film, ça me fait pas peur. Et tu sais, moi, je tue le cochon tous les ans chez moi. J'ai besoin de personne pour m'apprendre. Voilà, je crois que ce parcours de vie m'est utile dans mon métier, quoi.
Nous, on est jeunes. On a tous 16 ou 17 ans. On arrive à un âge
où on doit choisir ce qu'on veut faire plus tard. Et ça, ça fait flipper nos parents, nos profs et surtout nous. Du coup, on s'est dit que vous étiez la bonne personne pour nous aider, pour relâcher la pression.
Moi, je crois réellement que si l'on veut, presque tout est possible. Et ma mère me disait, non, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous. Alors plus on te dit ça, plus t'as envie d'aller voir ce qui est interdit, ce qui est pas pour toi. Et ça, en fait, c'était un très bel enseignement.
Bah, je sais pas si on s'est tout dit, je pense pas. En tout cas, merci à vous, Raphaël Thierry. On se retrouvera dans peu de temps pour parler et voir vos projets en cours et à venir.
À Châtillon-sur-Seine, une rencontre orchestrée par Emma Lahal, Master Média et Création Numérique de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Avoir une gueule qui n'est pas la norme. Un genre qui n'est pas la norme, une identité sexuelle discriminée, ou tout simplement être étranger. Au collège Poincaré de la Courneuve, la jeune Sri Lankaise Jatusha attire le regard, mais contrairement aux idées reçues, c'est de la bienveillance. Son parcours a touché Emma Roulin qui en dresse son portrait.
Elle est arrivée en France il y a un an et demi et elle est déjà première de sa classe de 3e avec 17 de moyenne. Elle, c'est Jatusha, une ado de 16 ans d'origine sri-lankaise. Entre deux cours, dans les couloirs du collège Raymond Poincaré de la Courneuve, elle nous a raconté son parcours.
C'est mon père qui est venu en France le 1er en 2010. Il est venu en France parce qu'il avait beaucoup de problèmes qui se passaient dans Sri Lanka. Il y avait des explosions de bombes, des problèmes politiques et des problèmes économiques.
En octobre 2021, Jatusha, sa mère et son petit frère partent à leur tour en France. À son arrivée, Jatusha est scolarisée en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, plus communément appelée UP2A. Ce type de classe accueille des élèves venant d'arriver en France mais ne maîtrisant pas encore la langue. Le but, leur permettre d'intégrer ensuite une classe ordinaire. Après deux trimestres en UP2A, Jatusha rejoint une classe de 3e classique. Rapidement, elle progresse et devient première de sa classe. Son secret, travailler 3 à 4 heures après les cours et s'avancer. Et l'adolescente ne manque jamais une occasion de parler français.
C'est maman qui dit « toujours lire, toujours écoute ». Toujours parle en français.
Tout ce travail a un but, devenir médecin, pour aider les autres et pour ne pas déroger à une tradition familiale.
Il y a beaucoup de médecins dans ma famille de ma mère, c'est tous les médecins.
Et quand on lui parle de retourner au Sri Lanka, Jatusha fait la moue. Son avenir, elle le voit en France, un point c'est tout.
J'aime France, j'ai pas envie pour retourner au Sri Lanka.
Comme dans un film interclasse à sa bande son choisie par les élèves, Lose Yourself par Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. But he choke, he's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better.
Goes on. That-
change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming order too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot.
L'école de la vie dans Interclasse aujourd'hui, à quoi sert l'école? Question un peu provoque certes, mais qui cache en réalité de réelles fragilités. D'ailleurs, cette génération de collégiens et lycéens n'hésite pas à revendiquer une santé mentale vulnérable. Quelle cause? Zaineb, collégienne de Jean Moulin, à Villefranche-sur-Saône, s'est posé la question.
La santé mentale des adolescents se détériore de façon continue depuis la crise sanitaire selon Santé publique France. Ces problèmes peuvent s'expliquer par des raisons individuelles, sociales, économiques ou environnementales. Pression sur les résultats scolaires, prédisposition, situation difficile à la maison, il existe autant de situations que d'adolescents. C'est parfois les relations avec les autres élèves qui peuvent affecter la santé mentale d'un jeune. C'était le cas de cette collégienne de 15 ans, dans son ancien établissement. Elle préfère rester anonyme.
J'ai été harcelée, je me sentais seule, j'avais des amis qui me tournaient le dos et y avait des gens qui m'insultaient ou me tapaient pour rien, quoi. Et je me disais, peut-être c'est toi le problème, des trucs comme ça. Je me focalisais plus sur moi-même pour me dire peut-être qu'il y a un truc dans ton corps qui va pas, ou peut-être dans ta tête qui va pas, ou peut-être les gens te croient bizarre, ou peut-être il y avait même un moment où je crois que j'étais un petit peu, on va dire, en dépression parce que j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai aucune confiance en moi et je stressais tout le temps.
Astrid Clay, assistante sociale du collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône, donne quelques pistes sur les problématiques que rencontrent les jeunes.
La première solution qui me semble indispensable, c'est de pouvoir mettre des mots sur cette souffrance, expliquer ce qu'il ressent, puis on va réfléchir ensemble. On va pas agir tout de suite dans l'immédiat. On va réfléchir ensemble aux solutions qui peuvent nous paraître les plus appropriées.
Parler d'une santé mentale affectée chez les jeunes n'est pas une vue de l'esprit. Et un autre diagnostic est aussi pointé par les psys, la phobie scolaire. C'est un sujet que les collégiens de Victor Hugo à Marseille ont souhaité évoquer. Le groupe a travaillé avec Zoé Cotin de Logicam, l'école de journalisme d'Aix-Marseille.
C'est un thème qui les motivait énormément parce qu'ils connaissaient des personnes qui étaient elles-mêmes en situation de phobie scolaire. Mais au début, ils avaient leur propre définition de la phobie scolaire.
Pour moi, la phobie scolaire, c'est une sorte d'écœurement de l'école.
Moi, je connaissais des gens qui étaient dégoûtés d'aller à l'école, mais je ne savais pas quelle proportion ça pouvait prendre.
Pour approfondir, nous avons rencontré la psychologue scolaire de notre établissement, Madame Amel Hainaut.
Alors, la phobie, c'est une peur irraisonnée d'un objet, d'un être vivant ou d'une situation. Donc cette peur s'accompagne d'angoisse, de crises de panique, de pas mal de situations de crise. Et la phobie scolaire, c'est tout ce qui est en lien avec l'école, donc tout ce qui est scolarité. Cette peur irraisonnée qui nous empêche d'aller à l'école et donc qui nous laisse à la maison.
Comment cette phobie scolaire se déclenche?
Il y a parfois des traumatismes qui font que la phobie se déclenche. Ça peut être aussi le harcèlement, ça peut être une situation particulière. En fait, toute fragilité qui peut se cristalliser sur la phobie.
Quelles sont les conséquences de la phobie scolaire sur l'élève?
C'est le décrochage scolaire. Quand on a ce type de pathologie, c'est-à-dire une phobie, cette peur irraisonnée d'aller à l'école, c'est difficile pour poursuivre sa scolarité, de suivre les cours, parce qu'on a cette angoisse, ce stress qui fait qu'on reste à la maison.
Quels sont tous les symptômes qu'on peut retrouver dans la phobie scolaire? Comment ça peut se manifester?
L'angoisse, il y a des élèves, justement, de Victor Hugo, qui n'arrivent pas à franchir le portail. C'est vraiment physiologique, quoi. C'est pas des faux symptômes, on fait pas semblant d'avoir peur, en fait. C'est pour ça que je parlais du harcèlement, c'est je vais encore rencontrer telle personne, donc je vais être dans l'évitement parce que ça va me stresser, parce que j'aurai peur d'avoir mal, d'être frappé, d'être insulté, d'être décrié. C'est-à-dire on est déprimé parce qu'on est usé, parce que quand on est tout le temps en mode veille, danger, ça use. au fur et à mesure, on se dit, je suis fatiguée d'avoir peur, en fait.
Au-delà du suivi psychologique, il existe des associations qui interviennent pour accompagner les élèves en situation de phobie scolaire. C'est le cas de l'association Zebra, à l'accueil des élèves de la 6e à la terminale.
Dans la salle d'art-thérapie, les jeunes sont regroupés autour d'une grande table.
Non mais c'est physiquement éprouvant pour de vrai, là on n'est pas bien.
Ils reconnaissent que notre présence les perturbe, car selon eux, nous ne sommes pas du même monde. Rien qu'à entendre le mot lycée, Faleste est paniquée. Pourtant, elle a bien voulu nous livrer les raisons de sa présence à Zebra.
Je m'appelle Faleste et j'ai 17 ans. La phobie scolaire, comme beaucoup de monde, ça s'est matérialisé par énormément de crises d'angoisse. Un ennui en cours qui se transforme petit à petit en peur. Puis on commence à s'isoler. Moi, ce que j'aimais bien faire, le aimer est relatif, c'était m'enfermer dans les toilettes pendant 8 heures. C'est un profond moment de solitude, en même temps d'incompréhension. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça n'arrive pas aux autres? Et pourquoi j'arrive pas à avancer? En fin de compte, c'est très frustrant comme situation. Ça a commencé au collège, le cas typique de harcèlement, agression sexuelle et tous des traumas qui aboutissent à une peur des autres. Et c'est un sentiment qui, même si on le rejette, inconsciemment va continuer à grandir en toi et puis ça va se matérialiser par les crises d'angoisse et par les « tu finis dans les toilettes pendant 8 heures ».
As-tu pensé à arrêter l'école ?
Je ne peux plus rentrer dans un bâtiment, donc ma scolarisation se fera au CNED. Voilà, il n'y a pas de prof chez toi, tu ne vas pas voir des profs. C'est très solitaire comme étude, le CNED. Après, socialement, c'est très éprouvant parce qu'il y a les parents qui se disent aussi également « Mère de mon enfant, qu'est-ce qui lui arrive ?» Et moi, je me dis « Je suis derrière les autres. J'ai l'impression que la vie est une course, en fait. On m'a appris qu'elle ne l'était pas, mais moi, j'ai 2 ans de retard. J'aurais techniquement dû passer mon bac pour cet été. J'ai le niveau seconde, alors que j'ai 17 ans. Et c'est pas techniquement le niveau qu'on est censé avoir à 17 ans.
Elle n'est plus scolarisée depuis 2 ans, Charlotte non plus, et le harcèlement est aussi à la racine de sa phobie.
Je crois que ça a commencé à partir du CE1, où déjà c'était plutôt des violences physiques et des insultes. Je pensais pas que c'était possible d'avoir peur de l'école au point de pas y aller. J'ai continué tout le long de mon collège où je me suis fait harceler, des violences sexuelles et tout. En arrivant au lycée, j'ai continué à me faire harceler et je crois que c'était le truc de trop. En parallèle, j'ai eu des problèmes avec ma famille, donc ça n'a pas arrangé. Du coup, j'ai pas su tout gérer en même temps et j'ai dû décrocher certains trucs pour en garder d'autres. Et j'ai dû décrocher l'école, du coup. Je suis sous antidépresseur, somnifère, calmant.
Et scolaire ?
Du coup, j'ai dû arrêter l'école, de faire l'école à la maison, sauf que j'ai pas, la première année que j'ai fait le CNED, j'ai pas réussi à gérer tout. Du coup, ça a été un peu compliqué. Cette année, même le CNED, j'ai pas réussi. Donc je suis pas du tout scolarisée cette année.
Mais pour la plupart ici, c'est l'inadéquation du système scolaire à leur façon d'apprendre qui a engendré une peur, une panique de l'école.
Vermeer a 18 ans, diagnostiqué HPI, c'est-à-dire au potentiel intellectuel, il raconte que l'école le paralysait.
Quand je faisais mes devoirs, j'avais extrêmement mal aux doigts au bout d'environ 20 minutes à écrire. Genre, je peux écrire des dizaines de pages si c'était pas un devoir. Mais au bout d'une demi-page de devoir, j'avais énormément mal aux doigts, je pouvais plus tenir le stylo. Et quand je portais mon cartable pour aller en cours, ça m'angoissait énormément. J'avais aussi énormément mal aux épaules, même si je le portais peu de temps et même s'il était léger, indépendamment de son poids, j'avais très très mal. Et du coup, il y a eu des périodes où je ne pouvais plus aller en cours à cause de ça, tellement ça me faisait mal. Et c'est pour ça qu'on a cherché des solutions.
Et est-ce que pour tes études supérieures, tu penses reprendre, genre là, après le bac, est-ce que tu penses faire un BTS ou partir à l'université, etc.
Les études supérieures, ça m'angoisse moins. Maintenant, j'ai repris confiance en moi, etc. Aussi, je sais faire semblant d'être une personne normale. Alors, j'ai moins de chances qu'on m'harcèle. Et en plus, en général, à l'université, les gens sont plus matures et ils ont d'autres choses à faire que d'harceler leurs camarades. Donc, du coup, je pense que je me sens capable de retourner à l'école, entre guillemets. Mais le système d'apprentissage n'est pas du tout le même. Donc, ça reste quand même assez différent de l'école classique et c'est pour ça que je m'en sens capable.
Ici, très peu se disent prêts à retourner à l'école. Voilà pourquoi le soutien de l'association est précieux. Les jeunes sont à la fois accompagnés pour leurs cours à distance, mais surtout apprennent à reprendre confiance en eux.
Et le sujet ne se limite pas évidemment rien qu'à Marseille et ses environs. Le même constat vaut pour l'Outre-mer, à Petite-Île, au sud de l'île de la Réunion, au collège Joseph Soico, une élève, Marie-Jeanne, a souhaité faire une chronique sur son mal-être.
Parce que je trouve que c'est un sujet assez tabou. C'est bien d'avoir dans son entourage une ou des personnes qui peuvent être là pour vous écouter et peut-être vous aider si elles s'en sentent capables. J'ai fait un sondage sur Pronote dans mon collège pour avoir un chiffre des personnes qui sont ou ont été en situation de mal-être à cause des réseaux sociaux. 392 personnes ont répondu. 18%, soit près de 1 personne sur 5, l'ont déjà été. Si j'ai choisi de vous parler des adolescents, c'est parce que j'en suis moi-même une et le mal-être me concerne aussi.
Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que ça a commencé ?
Je pense que ça a débuté à mon entrée au collège, car c'est un peu la sortie de l'enfance, la pression scolaire commence, les élèves du collège qui se jugent tous entre eux. Le monde des réseaux sociaux avec le fait de se comparer aux autres et le début des complexes. Ça a été une période très compliquée. Si j'ai réussi à en parler assez facilement à mes amis, ça a été l'inverse avec mes parents qui ont appris bien après que je n'allais pas bien. Pour certaines personnes, c'est dur d'en parler, mais ça peut vraiment vous aider à aller mieux. Alors essayez d'en parler à vos proches ou à des personnes de confiance.
Tu as souhaité évoquer plus particulièrement le sujet des réseaux sociaux. Pourquoi donc ?
Les réseaux sociaux sont très présents dans nos vies. Ils peuvent être très utiles, mais aussi nous détruire. Il faut en avoir une utilisation raisonnable. D'un côté, tu peux rencontrer des personnes bienveillantes qui peuvent te comprendre, des personnes empathiques qui vont t'envoyer des messages d'amour et de soutien, mais tu peux aussi rencontrer des personnes malveillantes, des personnes qui vont mal réagir et envoyer des messages de haine et des critiques. Il faut juste être très prudent. Un autre point négatif des réseaux sociaux est le fait de se comparer aux autres.
Y'a comme un malaise, du mal à trouver ma place. J'ai su jeter ma laisse, si je marche, ma faim, ma soif. Je veux juste sauver mon âme, car je peux pas sauver ma race. Tout cet argent ne pourra pas soigner le marasme dans ma tête. De cette courte vie en disposée à plaisance. Que nos familles soient toutes bénies de nos présences. Que nos actes soient le résultat de nos promesses. Que les miens soient plus humbles avec les leurs. Et ma représentation physique, c'est bien tout ce qu'ils me connaissent. Même pas assez honnête pour admettre qu'ils méconnaissent. Ta vraie nature, qui tu es, est précieux comme une âme. Emily a fait son coming out. Tout le monde au quartier la regarde comme si c'était une meurtrière. Mais s'isoler du monde, la protéger comme une arme. La vérité affranchie qu'ils disent, mais rien n'est moins sûr. Traîner, nettoyer à la rinsure, vivre. J'ai ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher. Ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher, de vivre. Une seule vie et beaucoup de questions. Une seule chance.
Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress. Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress. Stress, stress.
J'étais là le jour où son père a pris son fusil, voulait se foutre en l'air pour avoir perdu un gosse. Il veut rien entendre. Avec Joe ce soir-là, c'était dur à croire. Il a provoqué un mec. Ils sont revenus à plusieurs. Ces Renois voulaient nous faire. L'un d'entre eux a brisé une bouteille et ramassé du verre. Échauffour et expiration forte et grand silence. Quelques bruits de pas qui s'éloignent, suspense immense. Joe dans une mare de sang, là sur le sol. Mon premier réflexe, c'est chercher mon téléphone. Crie à l'aide, mais il est tard, personne m'entend. Me voilà tenant dans mes bras, mon frère en sang. Et quand je dis mon frère, c'est parce qu'on a grandi ensemble. Sa mère connaît la mienne. Et je considère ses enfants comme mes enfants. Quand j'ai annoncé la nouvelle à son vieux, il m'a pris dans ses bras. Il a pleuré et m'a demandé de vivre. J'ai ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher. Ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher, de vivre. Une seule vie et beaucoup de questions. Une seule chance.
Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress. Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress.
La drogue m'a pris des frères et c'est tragique. On jure de faire le bien quand la mort gravite. Nous voir nous déchirer, c'est ce qu'ils veulent. Maman, moi je veux pas mourir jeune. Si mon neveu veut pas mourir jeune, le destin a déjà repris mon frère, Nel. Si je pars avant mon heure, le but c'était de vouloir intensément vibrer de ce récit éternel. Vivre.
Vivre Benjamin Epps sur Inter en résonance avec Interclasse qui interroge aujourd'hui l'école de la vie et la vie scolaire en général. D'ailleurs, il serait malhonnête de ne pas aborder les situations personnelles extérieures qui sont souvent difficiles pour l'élève, situation familiale entre autres et que l'école doit prendre en considération. Toujours à Petite-Île, sur l'île de la Réunion, où nous étions juste avant d'écouter Benjamin Epps, Loane, une élève, se projette dans la peau d'une autre en interrogeant la conseillère principale d'éducation de Swaco, sous l'œil de Laurent Youss.
Je suis en dépression à cause de la séparation de mes parents. Qu'est-ce que vous allez faire ?
D'abord, je vais prendre le temps de t'écouter, prendre le temps d'entendre en quoi ça t'affecte et comment ça t'affecte, si ça a une incidence sur ton sommeil, sur tes résultats, sur ta concentration. Et puis après, je vais passer le relais à mes collègues, Madame Morel, qui est psychologue, qui pourra aussi donc t'apporter son aide par rapport à ton mal-être.
Et est-ce que vous allez prévenir mes parents ?
Ça dépend jusqu'à quel point tu vas pas bien. Si tu me dis que tu as des idées noires, tu as des envies suicidaires, là forcément je vais alerter tous les adultes qui sont autour de toi. Y compris des fois on prévient les professeurs aussi pour qu'ils soient vigilants, attentifs à si tu craques en cours, si tu te mets à pleurer. Donc on alerte tous les adultes. Après, si tu me dis que tu vas pas bien mais que c'est passager, et si tu ne veux pas que j'en parle à tes parents, l'idée c'est ça aussi. C'est peut-être te dire que voilà, moi tu viens me voir quand tu veux, mais c'est grave, il faut que tes parents ils sachent à quel point tu vas mal, à quel point la séparation est douloureuse pour toi, donc c'est bien que tes parents soient au courant.
C'est désormais un rendez-vous incontournable d'Interclasse, le rendez-vous avec Karina Chatin et Jennifer Elbaz. Bonjour.
Bonjour.
On va vous retrouver toutes les semaines dans Interclasse cet été encore une fois pour parler de la protection des données, de l'univers numérique des lycéens et des collégiens, qui est évidemment une question centrale dans leur quotidien. Karina Chatin, la protection des données, c'est vraiment une chose qui vous préoccupe?
Bah oui, c'est un peu l'ADN de la CNIL. On est là pour protéger les données personnelles et la vie privée des individus, faciliter l'exercice de leurs droits. Mais en fait, c'est quoi les données personnelles ? Eh bien, sans le savoir, nous pouvons livrer des données personnelles en ligne dès que nous créons un compte. Nous donnons nos noms, prénoms, notre adresse mail. Mais en fait, des données personnelles, il y en a énormément. Par exemple, la plaque d'immatriculation du scooter, l'adresse IP, notre voix sont des données personnelles. Et parmi ces données personnelles, il y a ce qu'on appelle des données sensibles. Pourquoi on les appelle sensibles ? Eh bien, parce que en les dévoilant en ligne, elles peuvent nous mettre en difficulté, elles peuvent susciter des réactions de rejet, elles peuvent susciter du cyberharcèlement. Et donc, ces données sensibles, c'est par exemple la religion, c'est par exemple l'état de santé, les pratiques sexuelles, les opinions politiques. Et donc, nous, notre conseil, c'est bien sûr d'éviter de dévoiler ces informations très sensibles lorsqu'on est en ligne.
Si vous êtes avec nous dans Interclasse, c'est qu'évidemment, l'univers en ligne, les réseaux sociaux, les téléphones, bien évidemment, les jeux vidéo et bien d'autres choses encore, sont dans l'univers quotidien de nos collégiens et lycéens. Et je vous présente Emeline, qui interviendra toutes les semaines. Bonjour Emeline.
Bonjour.
Pour poser une question. Et la première question va porter sur l'identité numérique aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, on entend beaucoup parler d'identité numérique, mais personnellement, j'ai du mal à comprendre à quoi ça fait référence. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, s'il vous plaît ?
Oui. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, le réflexe que tu as, c'est d'aller voir son profil sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de garder le lien et puis c'est une manière aussi de voir un petit peu à qui on a affaire, entre guillemets, sur la façon dont on se présente sur les différents profils qu'on se crée. Eh bien, en réalité, la façon dont on se présente sur les réseaux sociaux, elle n'est pas forcément la même que dans la vie tangible. Et les informations qu'on donne sur soi, la façon dont on se représente, bah, quelque part, ça révèle un petit peu une partie de nous, mais ce n'est pas toute notre identité et ce n'est pas toute notre personnalité. On est beaucoup plus riche que ça. Ces données personnelles qu'on partage avec tout le monde, eh ben, ça peut avoir une conséquence à court, moyen ou long terme, parce qu'on ne sait pas quand ça va être interprété. Par qui ? Dans quel contexte ?
Alors, vous avez des conseils ?
Ce qu'on conseille, c'est de surveiller sa réputation en ligne, d'inscrire son nom régulièrement, son prénom et son nom dans un moteur de recherche pour voir un petit peu ce qui ressort. Et puis, éventuellement, exercer son droit à l'effacement. Parce que quand on a des informations qui ont été révélées par d'autres personnes que nous, eh ben, ça peut ne pas nous arranger et on peut avoir envie de les faire effacer. Dans ces cas-là, on peut exercer un droit qui est le droit à l'effacement.
Karina Chatin et Jennifer Elbaz de la CNIL, merci, à la semaine prochaine. Pour refermer ce premier interclasse de l'été où il a été question de phobie scolaire, de harcèlement, du rôle de l'école dans l'apprentissage de la vie, voici un échange plutôt vivifiant entre une prof et une élève. Nefer Tari, une jeune footballeuse du Red Star à Saint-Ouen où Interclasse s'est installée cette année, a souhaité enregistrer un entretien avec une de ses profs et ses amis du foot, avec la complicité de Fanny Léonore Crouzet.
Bonjour madame, je suis la chirurgienne qui va vous opérer. Comment elle va cette épaule? Madame Falampin?
Oui, c'est madame Falampin qui a une fracture de l'humérus à l'épaule droite.
Madame Falampin, lycée Marie Curie.
Sonia.
Oui.
C'était la professeure de SVT de Sonia, celle qui a fait naître en elle la passion pour devenir la chirurgienne qu'elle est aujourd'hui.
Madame Falampin, j'y crois pas.
Mais moi j'y ai toujours cru, Sonia.
Un professeur, ça change la vie, pour toute la vie.
Alors, je m'appelle Marie-Noëlle Châtel, je suis enseignante depuis bientôt 23 ans. J'ai fait 20 ans de collège et depuis 3 ans, je suis en cité scolaire à Paul-Valéry, dans le 12e. Et au début de l'année, j'ai eu la chance d'avoir Nefer Tari en cours.
Moi, je me demandais d'où vient cette façon d'animer, d'être assez dynamique.
À l'école, j'étais pas très bien. Je m'ennuyais terriblement. Et je trouvais qu'on n'était pas considérés comme des personnes, mais plutôt comme des gens qui devaient répéter des choses qu'ils comprenaient pas forcément. Donc j'aime bien aller chercher les élèves, j'aime bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les concerner par ce que je dis, parce que pour moi c'est une clé en fait pour leur vie d'après. Je me dois d'aller les chercher. Il faut partir aussi avec la conscience que certains élèves ont des lacunes, qu'on a un programme à suivre, notamment en première. Ça, c'est un travail d'équilibriste, parce que il faut essayer de rattraper le retard comme on peut, en donnant un contenu bien construit et riche. Et en même temps, faut remobiliser sans arrêt, parce que il y a des élèves qui ont des habitudes de désinvestissement total. Donc, c'est très difficile à faire.
Pourquoi le métier d'enseignant, il est plus difficile pour vous?
Il y a une indisponibilité des esprits qui est dingue. Et du coup, je me retrouve avec beaucoup d'élèves très, très indisponibles au savoir.
Moi, je me méfie aussi des profs parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo d'un prof qui frappait un élève. Il n'y a pas de raison pour frapper un élève. Tu peux lui parler, l'exclure, mais pas le frapper.
Je pense qu'on peut rapidement péter les plombs aujourd'hui, adultes ou jeunes. Et moi, j'ai dérapé. Alors, j'ai pas frappé, hein. Faut pas exagérer. Mais j'ai perdu patience, j'ai dit des choses que je regrettais vraiment. Je pense que vous vous défieriez moins des adultes s'ils acceptaient de reconnaître leurs torts. Ce qui est précieux et qu'on n'a pas le temps de faire, c'est des moments comme ça. Je pense qu'il faudrait dégager du temps dans chaque établissement pour avoir une vraie pause, un vrai foyer où on puisse jouer au baby-foot avec un prof, parler de la pluie et du beau temps. Pas forcément faire copain-copain parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on ne va pas faire semblant, mais se rencontrer. Parce que je crois que la société, si elle est aussi individualiste, c'est qu'elle a effacé complètement l'altérité. Et le fait qu'on soit différent, mais qu'on puisse quand même se parler, quoi.
Merci Madame Châtel pour venir à cette interview au Stade Beurre.
Ben, merci infiniment à vous. En fait, la proposition d'interview de Nefer Tari, elle est arrivée à un moment incroyable. J'ai eu une montagne de soucis qui m'est tombée sur la tête. Et je vois sur mes listes qu'il n'y a plus de Nefer Tari. Et franchement, j'étais hyper en colère. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous confie des élèves, ils disparaissent du jour au lendemain. On ne peut pas leur dire au revoir, on ne sait pas où ils vont. Et j'étais hyper en colère. Et puis un jour, je l'ai vu débarquer dans ma classe. Madame, bonjour, on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Puis je voudrais vous remercier et puis vous dire que vous avez quand même compté et que je voudrais vous interviewer. Alors là, je suis tombée complètement de ma chaise. Bah, c'est formidable parce que ça me redonne du souffle. Il y a tout d'un coup une petite fenêtre qui s'ouvre et c'est hyper agréable.
Merci, madame.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Interclasse, une émission d'Éric Valmire et Fanny Léonore Crouzet. Réalisée par Lilian Allôme, composée par les élèves d'Interclasse et Valentine Chédebois. Après le flash, rendez-vous avec Leïla Kadour-Bounadi pour I Love Le Grand.